Je vous invite à ouvrir la parole pour poursuivre dans l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Matthieu au chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Avec les engagements de Karim et Elodie ce matin, on a vécu un bon moment. On a entendu leur décision personnelle de suivre Jésus-Christ et ça nous réjouit. Et en même temps, on est dans une société individualiste où finalement chaque individu a le droit à ses moments un petit peu forts, ses rites. Et on se dit peut-être que c'est leur délire ce matin. Si vous n'avez jamais assisté à un baptême ou si vous le découvrez, c'est leur choix. C'est un moment fort qu'ils voulaient vivre, qui donne un sens à leur vie. Mais on va lire dans la parole que c'est pas simplement un acte isolé, l'acte de deux personnes qui ont une idée comme ça, ou de quelques personnes, une poignée, mais que ça nous renvoie à un ordre précis du Christ, que ça relie leur vie à tout ce que ont décidé des hommes et des femmes depuis des siècles en s'engageant à la suite de Christ. Il faut avoir une vision plus large et entendre ce que la Bible nous dit du baptême et en particulier sur son sens. Et on va revenir simplement à ce que le Christ a dit dans Matthieu 28 avant sa remontée au ciel. C'est les dernières paroles de l'évangile de Matthieu et on va voir que le sens du baptême est tout à fait clair. C'est au service secret, non pas secret, au service visible, au service de sa majesté. Et on va voir ensemble que le sens du baptême est clair pour nous et ceux qui nous entourent, que sa mission est claire, c'est être des disciples qui font des disciples. Alors on est dans les derniers versets de l'évangile de Matthieu, je le disais, c'est des derniers versets qui sont très courts mais très puissants, très denses. Ils sont pas là par hasard, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, de tout ce que Jésus a révélé de son autorité par son enseignement, ses miracles, par sa mort et sa résurrection, c'est le point culminant de l'évangile. On va lire ce passage maintenant, Matthieu 28, à partir du verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous voulons entendre ta parole ce matin et y obéir comme tu nous le demandes, dans l'assurance que nous suivons le guide parfait. Au nom du Christ, nous te prions. Amen. Amen. Alors dans ce texte, vous l'avez peut-être vu dès le premier regard, il y a un sandwich qui nous parle de la souveraineté, de l'autorité de Jésus. En fait, quand vous regardez ce texte, Jésus parle de lui, et puis il nous envoie en mission, et puis Jésus parle de lui à nouveau. Comme pour nous rappeler, et on va le voir, que notre mission, notre rôle, notre identité est entourée avant et après par la personne, l'autorité du Seigneur Jésus. La première chose que Jésus nous dit, c'est qu'il est souverain sur tout. Vous savez, ce qui est fondamental pour une mission, c'est la confiance en celui qui nous la confie. Pour aller loin, pour avoir du courage, de la motivation, il faut avoir pleine confiance dans celui qui nous appelle. Et plus la mission est grande et dure, et plus notre confiance en lui doit être grande. Voilà la première vérité que Jésus pose. Je suis digne de confiance, je suis souverain sur tout. Le Seigneur est fidèle à sa parole, verset 16, il a annoncé à ses disciples, aux 11 moins Judas, qu'il les retrouverait après sa résurrection en Galilée. C'est effectivement ce qu'il fait dans ce passage. Finalement, on retourne au départ. Jésus a commencé son ministère en Galilée, assez loin de Jérusalem, et puis il est monté à Jérusalem pour accomplir sa mission, et puis on le retrouve en Galilée, son QG finalement. Et c'est là qu'il donne rendez-vous à ses disciples. Alors, faut imaginer l'état d'esprit des disciples à ce moment-là. Ils ont, on le voit dans les autres évangiles et aussi dans l'évangile de Matthieu, ils ont déjà des preuves de la résurrection. Et en même temps, ils sont un peu en mode, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jésus est mort, il est ressuscité, on vient d'apprendre une nouvelle surprenante, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les forces spéciales de Jésus ont besoin d'un ordre, d'une mission, d'un objectif. Jésus leur a déjà donné cette mission dans Matthieu 10, mais il doit encore le rappeler et le préciser. C'est le moment de la rencontre, verset 17, tant attendu. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Ils voient Jésus vivant. C'est la démonstration que tout ce que Jésus a fait pour eux, tout ce qu'il leur a dit, et en particulier son œuvre à la croix, est vrai. Je suis vivant, je suis vainqueur. Mais curieusement, certains ont des doutes. On le voit au verset 17. Pourquoi des doutes? Est-ce qu'il s'agit de la résurrection elle-même? Probablement pas, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà eu des preuves majeures de la résurrection, mais plutôt des doutes sur la juste attitude à adopter. Imaginez que lundi, vous êtes convoqué par Emmanuel Macron, vous rentrez dans l'Élysée, vous ne savez pas trop comment il faut faire, ce qu'il faut dire, l'étiquette, vous ne savez pas trop comment vous comporter, et c'est le cas ici. C'est le Jésus vivant, ressuscité, glorieux qu'ils voient, et ils sont un peu empruntés sur leur manière de faire devant cette situation impressionnante. Alors Jésus va leur parler, il va leur dire quelque chose. Alors vous savez qu'on est en période Euro de foot, Euro 2020, et souvent on est très intéressé par les déclarations après match. Quand un champion a remporté une victoire, quand un homme politique a été élu, on s'attend à ce qu'il va dire. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Il y a cette attente de ces moments solennels, sachant aussi que la première parole d'un discours donne le ton. Les premiers mots, on s'en souvient. Et c'est là que Jésus dit qu'il est souverain sur tout. Tout pouvoir, verset 18, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelle déclaration peut être plus forte que celle-là? Dites-moi, qu'est-ce qui peut être plus puissant que cette parole? Je suis souverain, j'ai l'autorité, non seulement sur ce qui est sur la terre, mais sur ce qui est dans l'univers, dans le ciel entier. Voilà qui vous parle. Voilà votre maître, voilà qui il est vraiment. Et en disant ça, Jésus se présente clairement comme le Dieu souverain. Rien de moins que le Dieu souverain. Ce n'est pas un illuminé qui envoie ses disciples dans le mur, c'est le Dieu de l'univers qui rassemble ceux qu'il a choisis, qui les envoie en mission dans toute sa souveraineté. Et ce faisant, il confirme ce qu'on a déjà vu dans l'évangile de Matthieu, l'identité divine du Seigneur Jésus, et en particulier au moment de son procès, quand Jésus dit à ses contradicteurs, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées. Il s'approprie ces paroles de l'Ancien Testament, en particulier Daniel 7, qui prophétisait la venue du Fils dans toute son autorité. Écoutez ce que dit Daniel 7 à ce sujet, versets 13-14. Le prophète dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours, vers Dieu le Père. On l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire, le règne sur tous les peuples. Les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas. Son royaume ne sera jamais détruit. Jésus est souverain sur l'univers. Il est souverain sur tout. Il est le roi. Ça a été contesté dans l'évangile. Des gens qui sont élevés pour mettre en cause ça, qui l'ont amené à la mort, les autorités religieuses. Mais là, Jésus dit, c'est moi qui ai le dernier mot. Je suis vraiment souverain sur tout. C'est un jour d'élection législative. Jésus n'est pas en train de dire, j'ai gagné péniblement le pouvoir à 51%, à 50,5%. Où je compose une majorité avec mon opposition, une sorte de majorité un peu bancale comme dans certains pays. Non. Je suis celui devant qui se prosterneront tous les hommes sans exception. Les grands et les petits. Les favorables et les défavorables. Et ce tout pouvoir donne le ton à ce qui suit. Donne le ton à la mission qui suit. J'ai tout pouvoir. Il faut faire de toutes les nations mes disciples. Il faut leur enseigner tout ce que j'ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors arrêtons-nous déjà à ce stade de notre texte et pensons aux hommes les plus puissants de ce monde, à ceux qui sont les plus impressionnants, par leur pouvoir politique, par leur pouvoir financier, hein, classement des plus puissants au monde, Bezos, et puis les autres. Pensons à tous ces grands. Pensons aux grandes puissances de notre monde, ceux qui nous impressionnent, qui nous font un peu flipper. La Chine, l'Inde, la Corée du Nord. Pensons à ce qui, dans notre monde, nous effraie, nous impressionne, et beaucoup, beaucoup plus grand que nous, au désastre actuel, comme ce virus qui circule ou annoncé par toutes les apocalypses dont on nous parle. Et mettons de l'autre côté de la balance notre Seigneur Jésus. Il pèse plus lourd. Il est plus grand. Il est souverain sur tout. Et s'il est souverain sur tout, son désir, c'est d'être souverain sur nous. Et c'est la décision d'Élodie et Karim ce matin, en un mot. Jésus, sois mon roi. Sois mon maître. Oriente ma vie dans mes grands choix comme dans mes petits, dans ma vie quotidienne, dans ce que je pense, je dis, je fais. Sois mon souverain. Sois mon roi. C'est vrai de tout chrétien. Et c'est l'occasion aussi, ce matin, si nous sommes chrétiens de longue date, de reconsidérer la question. Est-ce que j'ai mis Jésus dans une boîte, dans une case, dans la case du dimanche matin, dans la case religieuse, ou est-ce que vraiment il est souverain sur tout ? Y a-t-il ce matin des pièces de ma vie, de mon cœur, où mon roi n'a pas accès ? Où le souverain sur l'univers est laissé à la porte par mon propre désir ? Ce matin, entendre que Jésus est souverain sur tout, c'est lui dire, Seigneur, sois souverain sur nous, sur moi. Je ne suis pas, Jésus n'est pas à mon service, mais j'entre par le baptême à son service, pour sa gloire, pour que d'autres rentrent et soient sauvés. Alors Jésus a tout pouvoir, on pourrait se dire, et il ferait mieux de le faire, il peut faire le boulot tout seul. Si vous avez tout pouvoir, de quoi vous avez besoin pour faire avancer votre règne ? Vous pourrez imposer son règne à ses adversaires, mais dans sa grâce, il a choisi une autre stratégie qui nous étonne, c'est de nous utiliser. Et Seigneur, tu m'as bien regardé. Tu es sûr de ton choix. Peut-être un mauvais casting, tu es peut-être trompé d'idée, réfléchi encore. Non, c'est sa décision. Il a décidé que son arme, pour que son royaume grandisse, c'est que l'évangile de grâce soit porté par des hommes et des femmes transformés par l'évangile de grâce. Des hommes et des femmes qui disent... Jésus est souverain sur moi, qu'il devienne souverain sur toi, tu verras. Et c'est la suite qui nous en parle. Le souverain, surtout, nous donne sa mission pour nous. Et notre mission, elle est claire, c'est de faire des disciples. Ce que nous sommes déjà, finalement, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, c'est la seconde grammaire, excusez-moi de faire une seconde grammaire, je sais que c'est une matière qui fait mal aux oreilles, mais c'est important. Il y a dans notre texte un verbe qui pilote tout quant à notre mission. C'est faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission, ça, c'est le cœur du travail. Et les autres verbes sont soumis à cet impératif. Faites des disciples, littéralement, c'est des participes partant ou en allant, en baptisant et en enseignant. Mais la mission, le cœur de la mission, c'est de faire des disciples de toutes les nations. On a envie de dire au Seigneur, mais j'ai déjà du mal avec mes voisins, avec les membres de ma famille, avec mes collègues, pourquoi est-ce que tu m'envoies à l'autre bout du monde ? La vision de notre Dieu est large, parce qu'on ne regarde pas notre nombril, mais on regarde, on vient de le voir, au fait qu'il est souverain et il veut un règne complet. Et il nous associe à son œuvre. Son objectif depuis toujours, c'est que son salut se répande dans toutes les nations. L'évangile de Matthieu a commencé comme cela. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Fils d'Abraham, c'est quoi ? C'est cette parole de Dieu à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu n'a pas changé d'idée. Et il décide de nous utiliser pour faire de toutes les nations des disciples. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Faire des disciples, c'est un mot qu'on entend. Est-ce que on sait ce que ça veut dire ? C'est assez facile. Un disciple adhère et un disciple obéit. Un disciple adhère, c'est ce que nous dit la suite du texte. Faites de toutes les nations des disciples. les baptisant, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, on l'a entendu ce matin, c'est pas un acte magique, c'est simplement la démonstration d'une adhésion. Voilà, Élodie et Karim nous ont dit ce matin, je place ma confiance en Jésus. On s'est repenti de nos fautes et maintenant on place notre confiance en Jésus. Il est mort pour nous, il est ressuscité. J'adhère. C'est le sens juridique qu'on trouve beaucoup dans le Nouveau Testament. Cette adhésion, c'est le fait de dire ce que moi, je ne peux pas faire. Mon Seigneur Jésus l'a fait. Je ne pouvais pas porter le poids de mes péchés. Il l'a fait, il est mort pour ça. Je ne pouvais pas revenir à la vie, il est revenu à la vie et je place ma confiance en lui. Je crois que ce qu'il a fait, c'est vrai pour moi 2000 ans plus tard. Se faire baptiser, c'est reconnaître publiquement que Jésus, le roi de l'univers, est, on l'a dit tout à l'heure, mon roi, mon souverain. Et on le fait au nom de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, parce que toute la Trinité a œuvré pour le salut de chacun d'entre nous. Parce que on rappelle que le Dieu de l'univers a travaillé dans chacune de nos vies pour nous sauver quand nous sommes chrétiens. Vous imaginez le Dieu de l'univers qui a autre chose à faire? Non, il travaille. Père, le Père concepteur du plan de salut, le Fils qui est venu accomplir, faire tout ce qu'il fallait, le Saint-Esprit qui l'applique dans nos vies, qui nous fait naître de nouveau et qui nous conduit dans une vie nouvelle. Mais adhérer ne suffit pas. Il faut obéir. J'ai une confession à vous faire ce matin. Je suis nudiste, non pratiquant. Ça n'a aucun impact sur ma vie. Je suis toujours habillé. Je ne pratique jamais. Quand on est chrétien, être croyant, non pratiquant, ça n'a aucun sens. Quand on adhère, on le vit. Ça doit changer la vie. Ça doit changer les choses profondément. Et voilà pourquoi Jésus dit, verset 20, après les avoir baptisés, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, en d'autres termes, à obéir. Et dans l'évangile de Matthieu en particulier, Jésus se présente comme l'enseignant. L'évangile est structuré par des grands discours. Le sermon sur la montagne, très célèbre, chapitre 5 à 7. L'envoi en mission, chapitre 10. Les paraboles du royaume, chapitre 13. Jésus, c'est l'enseignant qu'il faut entendre et dont il faut mettre la parole en pratique. Vous connaissez le champ pour enfants, construire sa maison sur le sable ou sur le roc. Et souvent, on dit faut choisir Jésus, faut donner sa vie à Jésus. Non ! Ce que Jésus dit dans Matthieu 7, c'est construire sa maison sur le roc, c'est écouter et mettre en pratique. C'est ça qui fait notre solidité. Si on écoute et qu'on ne met pas en pratique la parole du Christ, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune solidité. Jésus, c'est l'enseignant qui veut que notre vie soit en phase avec sa parole tous les jours, que l'obéissance soit comme la marque de fabrique du disciple que nous sommes. Alors, ce n'est pas un thème qu'on aime beaucoup, l'obéissance. Qui plus est en France. Mais ça fait partie pourtant de l'identité de Jésus. On n'obéit pas à un code civil. On obéit à une personne qui a tout fait pour nous, qui a tout donné jusqu'au bout. Et on a plaisir à lui obéir, à l'aimer en retour. Alors à ce stade de notre texte, souvenons-nous qu'une fois qu'on est disciple, sa mission, elle est pour nous tous. Pensez à la chaîne de transmission à l'échelle de votre vie. Comment est-ce que vous avez, si vous êtes chrétien ce matin, rencontré le Seigneur? Il y a toujours de près ou de loin quelqu'un qui vous a parlé. Mais qui a parlé à cette personne? Et qui a parlé à la personne qui a parlé à... etc., etc. Il y a une chaîne. Il y a des hommes et des femmes qui ont obéi. Imaginez que ces 11 apôtres aient dit « Ouais, super, hein, mission et tout ça. » Et puis après, ils n'aient pas obéi. Comment on aurait la parole? Comment on connaîtrait le Christ? Comment on serait là ce matin, rempli d'espérance et de joie d'être témoin du baptême de nos amis? On serait nulle part. Les apôtres ont transmis l'Écriture et en transmettant l'Écriture à notre tour, de manière simple, on répond à sa mission pour nous tous. Dans l'Église, il n'y a pas de banc des remplaçants comme en équipe de France. Personne sur le banc, ça n'existe pas. On est tous sur le terrain, même si ça fait beaucoup de monde. On est tous sur le terrain parce que cette mission est pour nous tous. Parce que dès lors qu'on devient disciple, dès lors qu'on place notre confiance en Jésus, on reçoit ce mandat à notre tour. Comme l'écrit Donald Carson, c'est la mission contraignante de tout disciple de Jésus de faire d'autres personnes ce qu'elles sont déjà, des disciples de Jésus. Et puis, deuxième chose, souvenons-nous encore ce matin que sa mission pour nous, c'est à la fois l'adhésion et l'obéissance. Est-ce que vous êtes baptisé ce matin? Est-ce que vous avez pris position publiquement pour Jésus? Et sinon, pourquoi? Il y a toujours parfois des bonnes raisons. Je suis timide en public ou je remettrai ça plus tard. Mais c'est un ordre de Jésus. Faites-vous baptiser. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Dit le nuque éthiopien dans Acte 8. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? De prendre position pour Jésus ce matin. Et puis, sommes-nous des disciples obéissants? Quand on est placé devant cette parole de Jésus, c'est toujours le rappel, le renvoi, ce que nous sommes si on dit aux autres, ouais, il faut obéir à Jésus. Non, si je dis aux autres, il faut obéir à Jésus, c'est que je veux obéir moi aussi. Dans quel domaine ce matin j'ai besoin de réapprendre à obéir? Quel est le domaine ce matin que je dois mettre en ligne avec ce Seigneur qui est souverain sur tout? C'est le moment de demander pardon et de se remettre en ligne, de se remettre en marche avec cette mission qu'il nous confie pour les autres, mais pour nous-mêmes. Vous savez, l'obéissance nous choque beaucoup chez nos enfants. Beaucoup chez les enfants des autres, mais peu dans nos propres cœurs. Qu'on ait le même choc devant nos propres cœurs désobéissants. Et puis, souvenons-nous que sa mission, c'est pour le monde entier. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Il faut avoir une ambition large, parce que notre Dieu est grand. Oui, si on regarde à nos forces humaines, financières, on ne va pas y aller. Mais on regarde au Seigneur. Et lui, il veut que son règne s'étende sur la terre. On a prié pour les missionnaires tout à l'heure. Il faut continuer. C'est son ambition et c'est son plan. Son ambition et son plan est bon. Ils vont réussir. Personne ne doit être exclu de l'évangile, de la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors imaginez les 11 là. C'est beau, hein. Nous, on est 2000 ans après, mais ils sont 11. Peut-être plus. Puis Jésus leur dit, voilà, monde entier, les gars. C'est parti. Je leur ai qu'une seule tête, on y va, allez, hop, 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 hop. Vous imaginez, mais Seigneur, mais c'est trop. C'est beaucoup trop. Et regardez, voilà pourquoi Jésus termine comme ça. Regardez ses dernières paroles. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Un des plus grands drames de notre époque, c'est la solitude. C'est le fait d'être seul, seul dans la société, seul à son boulot, seul dans l'église. Mais Jésus promet à ceux qui se tournent vers lui d'être présents tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par son Saint-Esprit, on s'en est souvenu à la Pentecôte, il marche avec nous. Il est dans le cœur et dans la vie de chaque croyant. Vous vous souvenez comment a commencé l'évangile de Matthieu? Quel est le nom que portait Jésus à sa naissance, qu'il devait porter? Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'évangile se termine comme il a commencé. Jésus nous dit qu'il est avec nous. Mais souvent, vous savez, un peu comme les calendriers bibliques, c'est un verset qu'on prend en dehors du contexte. On dit « Ah, Seigneur, tu es avec moi dans tout ce que je fais. » Et c'est vrai quand on marche dans ses voies. Mais cette parole est donnée de manière particulière dans le cadre de la mission. Je suis avec vous. Si vous êtes des disciples qui grandissez et qui faites des disciples ensuite, je suis avec vous dans ce mandat-là. Bien sûr, Dieu est avec nous par son esprit toujours. Mais il le dit dans un contexte de mission. Ce n'est pas la privatisation de Dieu. Ce n'est pas Dieu à mon service, comme on voit tellement de cas aujourd'hui. Dieu au service de mes projets, Dieu qui veut augmenter ton potentiel, Dieu qui veut te donner ceci, cela. Non, c'est moi au service de Dieu. Et dans cette mission, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne sait pas ce qui va nous attendre. Pas ce qu'on va vivre dès demain lundi. On ne sait pas ce que va donner l'avenir de notre terre, de notre pays, de notre vie. Il y a beaucoup d'incertitudes. On ne voit pas la fin d'un certain nombre de crises. Parfois, on rentre à peine dans quelque chose de difficile dans notre famille, dans l'accompagnement de parents souffrants, dans un temps de chômage. On commence, on ne voit même pas l'issue. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, tous les jours. Et jusqu'au bout, il n'y aura pas un jour où le Seigneur fera défaut dans la vie de ses disciples. Jusqu'au jour où tout genou fléchira, où toute langue confessera que Jésus-Christ est le souverain sur tout, à la gloire de Dieu le Père. Alors, ce matin, soyons tous mobilisés. Le baptême, ce n'est pas un acte isolé de quelques farfelus qui veulent un temps religieux. C'est l'adhésion d'hommes et de femmes qui rentrent dans un grand et beau projet, entre les mains d'un grand et beau Seigneur, de faire des disciples de toutes les nations de la terre. Au début de la crise du coronavirus, on sortait à 20h pour applaudir les soignants. Et c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas faire ça dans l'Église. Il ne faut pas applaudir ceux qui font et soi-même ne rien faire. Il faut tous s'applaudir parce qu'on fait, parce qu'on est tous mobilisés. Parce qu'on ne peut pas se dire « je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire » parce que c'est le Seigneur qui nous appelle, tel qu'on est. Et s'il le fait, c'est son idée. Et si c'est son idée, elle est bonne parce qu'il sera vainqueur. Nous pouvons être mobilisés parce que l'enjeu en vaut la peine. Parce que l'enjeu, c'est le salut, la vie éternelle d'hommes et de femmes qui se perdent. Et nous voulons qu'un maximum d'hommes et de femmes, avant le retour de Jésus, rentrent dans son royaume et reconnaissent sa souveraineté. Nous sommes au service de sa majesté. Alors, soyons des disciples qui font des disciples de Jésus. Amen. Prions ensemble.